Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Avant de se lancer, il faut se dire, ok, en fait, bah voilà quelles sont mes forces, voilà quelles sont mes faiblesses, voilà ce qui me drive, et être conscient vraiment de ces faiblesses et savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter. On a dû directement arrêter, et là, ça a été ma première leçon entrepreneuriale, puisque avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. Mmh. Il faut aussi prendre en compte le cadre du jeu autant que le joueur. Et en revenant au Maroc, j'ai dû m'adapter, retrouver mes repères, déconstruire et reconstruire ma manière aussi de travailler. Mmh. Mais ça a été très très riche pour moi, puisque ça m'a permis d'être confrontée justement à un premier retour au Maroc.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invitée aujourd'hui, c'est Siham Sentissi. Elle est notamment Managing Director de Bluebirds, une plateforme digitale de référence qui a pour mission de connecter les entreprises à des talents indépendants en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Elle est également animatrice du podcast Histoire d'entreprise Maroc, un podcast qui met en lumière les parcours d'entreprises marocaines et africaines. Une carrière taillée sur mesure, beaucoup d'ambition et de talent. Siham Sentissi, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story.
Bonjour et merci de me recevoir.
Bah, tout le plaisir est pour moi, Siham. Alors, je le fais très souvent dans Job Story, un petit retour en arrière, un petit flashback. Oui. Les premiers pas dans l'univers professionnel. Ramenez-nous à vos premiers pas, tout simplement. Vous avez fait quoi côté professionnel au tout début de votre carrière ?
Alors, au tout début de ma carrière, j'ai commencé dans le conseil en service financier chez Talents à Paris. Mm-hmm. C'était un environnement qui était extrêmement stimulant. Mes journées étaient denses, mais apparemment pas suffisamment chargées. Mm-hmm. Puisque en parallèle de mes premières années de conseil, j'avais lancé avec des amis une start-up dans le micro-paiement. Donc, dès le début de ma carrière, j'ai eu un pas dans l'entrepreneuriat. Et le micro-paiement, bah, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'à l'époque, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Ouais. C'est ce qu'on appelle le paiement de biens digitaux à faible montant via le forfait téléphonique. Donc, par exemple, acheter un jeu mobile ou un abonnement premium et que ce soit directement débité du crédit téléphonique. Mmh. On avait eu, à travers cette expérience entrepreneuriale, nous, en tant que jeunes diplômés, même si en parallèle, on travaillait tous, un super démarrage, puisqu'on a fait un chiffre d'affaires à 6 chiffres en quelques mois. Mais on s'est vite rendu compte qu'on avait attaqué un marché qui était ultra réglementé, puisqu'il nécessitait en fait un agrément bancaire. Quand on fait ce qui s'appelle être du paiement et du décaissement pour compte de tiers, c'est exactement l'activité d'une banque. Et donc, ça nécessitait un agrément bancaire et un certain nombre de conditions, on va dire, qui étaient imposées par la Banque de France, qui, pour nous, jeunes diplômés, avec nos économies personnelles comme unique capital, était difficile à combler. Et donc, on a dû directement arrêter. Et là, ça a été ma première leçon entrepreneuriale, puisque avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. Mmh. Il faut aussi prendre en compte le cadre du jeu autant que le joueur.
C'est vrai que c'est hyper important et ça me fait penser à quelque chose, parce que des fois, quand je parle avec des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat dès le début, je me demande toujours, est-ce que on est né plutôt pour devenir entrepreneur, ou est-ce qu'on le découvre au fur et à mesure ? Parce qu'il y a des personnes, dès leur plus jeune âge, reçu des invités, voilà, à la cour de récréation, quand ils étaient au primaire, ils vendaient des petits dessins, etc. Donc c'est toujours quelque chose qui m'intrigue en quelque sorte. Est-ce que vous pensez qu'on est entrepreneur ou qu'on le devient ?
Bah, je pense qu'il y a un peu des deux, puisqu'effectivement, il y a des entrepreneurs qui sont dans l'âme, des commerçants dans l'âme, bref, il y a des personnes qui ont des vocations vraiment qui apparaissent dès la petite enfance. Moi, j'en fais pas partie. Moi, je pense que je fais plutôt partie de la grande majorité des personnes, à savoir qui n'a pas été animée d'une passion particulière quand elle était petite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'ailleurs une formation qui était plutôt un choix pragmatique, qui était celle de l'ingénierie, puisque c'est celle où, comme tout le monde le fait, ouvre le plus grand, le plus d'options. Mais clairement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui à la fois pour certains peut-être est inné et pour d'autres ça se construit avec le temps. Moi, depuis que j'étais petite, en revanche, j'avais quelque chose qui m'animait. C'est une forte envie d'avoir un impact sur mon environnement, donc avoir une certaine maîtrise sur mon écosystème. Et c'est comme ça que je m'épanouis. C'est quand je me rends compte que je ne suis pas juste un lambda, mais ce que j'entreprends à un résultat. Et c'est ce qui, derrière, a fait qu'en parallèle de ma carrière, à chaque fois, j'ai eu une expérience entrepreneuriale jusqu'à présent, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui aussi, j'entreprends toujours à la direction de Bluebird, parce que, justement, j'étais jamais satisfaite, on va dire, par le fait de me sentir un epsilon parmi plusieurs.
Bah déjà, le fait de vouloir avoir un impact sur son environnement, Siham Sentissi, c'est déjà avoir, je pense, à mon sens, une fibre entrepreneuriale. C'est l'âme même de l'entrepreneuriat, en quelque sorte. C'est de vouloir avoir un impact de façon générale.
Oui, oui. Mais c'est vrai que ce qui me motivait quand j'étais petite, c'était, enfin, mais ça l'est toujours d'ailleurs, c'était des causes sociales, dans le sens où depuis petite, j'ai une empathie qui est immense, mais aussi combinée à une ambition qui est forte. Et donc, j'avais toujours dans mon fort intérieur une sorte de révolte face aux injustices. Donc, c'est ce qui m'a drivée. Mais derrière, c'est ce que je disais, j'ai aussi une ambition forte et je savais que je ne pourrais pas concilier mon envie d'aider avec ma volonté d'être indépendante financièrement, de bien gagner ma vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé d'arbitrer mes choix pour pouvoir avoir un équilibre autant que possible entre ces deux mondes. Sinon, si je n'avais pas suivi que cette empathie-là et cette envie d'avoir de l'impact, je pense que j'aurais été plutôt dans l'univers de SOS Médecins Sans Frontières ou de cet ordre-là.
Bah moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'essayer au maximum de trouver un équilibre et de faire quelque chose qui nous anime, parce qu'au final, c'est le plus important. Si on trouve une vocation, une passion, une carrière qui nous anime, on se réveille tous les matins, on a envie de faire cette chose. Je pense que c'est le plus important, parce que après, bien sûr, l'épanouissement financier, l'argent, etc., bien sûr, ça va venir automatiquement, ou pas d'ailleurs, ça dépend. Mais en tout cas, je pense que le plus important, vraiment, c'est de s'écouter et de se dire, on passe beaucoup de temps au travail, que ce soit en entreprise, dans l'entrepreneuriat, peu importe ce qu'on fait, on y passe des heures et des heures et des heures, donc autant faire quelque chose qui nous plaît, ne serait-ce qu'un minimum.
Exactement. Être aligné avec soi-même et en tout cas savoir ce qui nous drive. Et une fois qu'on sait quels sont les éléments qui nous drive, derrière, ça nous permet de poser les bases et de se dire, OK, bon, ça, en fait, je vais mettre de côté parce que je suis OK avec ça. Ouais. Et au contraire, ça a quelque chose qui me tient à cœur et donc je vais y aller. Et c'est ce qui a un peu à chaque fois drivé mon chemin, parce qu'effectivement, comme tout le monde, il y a des moments où j'étais un peu plus heureuse ou un peu plus malheureuse au travail en fonction de l'environnement dans sa globalité. Et j'ai appris avec le temps, en tout cas tout au long de mon parcours, de vraiment, à un certain moment, faire une sorte de point d'arrêt. OK, je vais faire un recul en arrière, un pas en arrière. Je me pose de façon assez pragmatique. Est-ce que je suis OK ou pas OK avec ça? Est-ce que je suis toujours alignée ou pas pour continuer à avancer sans s'écrouler? Parce que la difficulté, c'est que derrière, certains peuvent s'écrouler quand on s'acharne à vouloir aller dans la mauvaise direction.
Bien sûr, et ça nous impacte aussi sur le plan personnel. On a beau vouloir mettre des limites entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Exactement. Si ça ne va pas au travail, ça ne va pas à la maison aussi, et vice-versa. Mais des fois, je pense que le professionnel prend plus, à mon sens. Après, si on est vraiment malheureux au travail et qu'on n'est vraiment pas bien, on y va la boule au ventre, etc., je pense que ça impacte plus notre sphère personnelle. Et voilà, notre entourage n'a rien demandé, en fait.
Donc, complètement. Et d'ailleurs, ça fait écho à c'est drôle, cette semaine, j'ai fait une publication sur LinkedIn. Généralement, j'hésite hein, de faire des publications qui sont à la frontière entre le monde pro et le monde perso. J'ai toujours du mal à me dire, bon, bah, c'est quoi mon niveau de curseur? Ouais. Mais on reste un individu à la fois, côté personnel ou côté professionnel, c'est la même personne au final. Et donc, le curseur est toujours, enfin, trouver l'équilibre est toujours délicat. Mais il faut être en tout cas à l'aise à se dire ok bon bah en fait moi me concernant bah, je suis une maman de 3 petites filles en bas âge pour m'épanouir bah, il faut que je trouve justement cet équilibre là bah, sinon derrière il y a une certaine culpabilité qui va s'installer vis-à-vis de ma famille ou inversement vis-à-vis de mon travail une fois que je vais délaisser un côté ou l'autre.
Effectivement. Donc autant justement prendre le temps de bien réfléchir, de prendre le recul des fois, de faire des introspections aussi le plus souvent possible, de se poser les bonnes questions. Et puis voilà, Siham Sintisi, donc première expérience entrepreneuriale qui a plutôt bien fonctionné et vous avez appris bien sûr beaucoup de choses derrière. Comment les choses se sont enchaînées pour vous par la suite, avant d'en arriver peut-être à Bluebirds?
À Bluebirds, effectivement. Comme je vous le disais, première leçon entrepreneuriale derrière, on a dû arrêter. Ensuite, j'ai fait mon premier retour au Maroc où, à 26 ans à peine, donc j'étais encore toute jeune, hein, 3 ans après mon diplôme, on m'a confié les clés du camion pour lancer From Scratch, la filiale d'un bureau d'études parisien à Casablanca. Et là, ça a été un gros challenge pour moi. Qui m'a permis en quelque sorte de masquer le goût d'inachevé de la précédente expérience entrepreneuriale puisque ça me permettait de re-entreprendre à nouveau. Mais cette fois-ci, sans risque, comme j'étais dans un cadre salarial. Donc, à la fin du mois, j'avais mon salaire. Ouais. Contrairement contrairement à avant, c'est pas vrai. Hein. Avant, j'avais mon travail en parallèle de mon expérience entrepreneuriale. Mais en tout cas, c'était avec un bon filet de sécurité. Et là, pour le coup, un choc des cultures, cette fois-ci, l'apprentissage a été sur ce plan-là, puisque c'était mon premier retour au Maroc en tant qu'adulte. Moi, j'ai grandi c'est la rétrospective qui nous fait dire. C'est que j'ai grandi dans une bulle bâtée. J'ai pas vécu, on va dire, les contraintes de ce que c'était que les tâches administratives, la gestion de quoi que ce soit avant de partir en France. Et donc, c'est en France où je me suis forgée professionnellement. Et en revenant au Maroc, j'ai dû m'adapter, retrouver mes repères, déconstruire et reconstruire ma manière aussi de travailler ici. Mais ça a été très, très riche pour moi puisque ça m'a permis d'être confrontée justement à un premier retour au Maroc. Ouais. Puis retour encore en France, toujours avec le même bureau d'études, avant de rejoindre un SIA Partners. Et là, je retrouve la dynamique du conseil pur où en moins de 18 mois, j'ai eu 2 promotions au sein du cabinet. Et toujours cette envie d'entreprendre puisque je monte en parallèle encore une fois de mes années de conseil une marque de bijoux avec une amie qu'on a appelée Axel et RL. Axel pour Selma et RL pour Siam en référence à nos prénoms.
D'accord.
et notre idée c'était quoi? C'était rendre accessible la haute joaillerie avec une approche couture et donc là on lance une première capsule qui s'appelle Bouton. Inspiré des boutons couture des grandes maisons.
D'accord.
Et j'ai toujours d'ailleurs un prototype de cette collection qui me permet de garder en mémoire ce petit bout de chemin entrepreneurial encore une fois qui n'a malheureusement pas abouti. Et finalement deuxième retour au Maroc avec Majorelle. Mais cette fois c'était pas comme le premier retour puisque c'était beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus assumé. Je savais pourquoi je venais, ce que j'acceptais, ce qui me motivait, ce qui me dérangeait, mais que je mettais en balance avec le reste. Et enfin, Bluebirds, qui a été pour moi comme une évidence, puisque Bluebirds cochait pour moi toutes les cases. Ça me permettait, de revenir à l'entrepreneuriat, mais avec une structure solide. garder mon lien fort avec le conseil, parce que le conseil, ça a vraiment été quelque chose qui m'a, enfin, un métier qui m'a toujours animée, dans le sens où ça inscrit la personne dans une boucle d'apprentissage continue. Ce qui m'a toujours motivée et animée dans le conseil, c'est le fait de découvrir tous les jours, toutes les semaines, un secteur, une problématique, un enjeu client différent. Et en ça, le conseil est très riche. Et en dernier lieu, ce qui m'a plu aussi dans Bluebird, c'est surtout d'être actrice dans une problématique aujourd'hui dont on a longtemps souvent parlé, c'est la mutation du travail et donc être actrice de cette transformation profonde du marché du travail.
Donc finalement, c'est en quelque sorte joindre l'utile à l'agréable.
C'est ça, exactement.
Excellent.
Vendre l'utile à l'agréable.
Excellent. Bah, Bluebirds, Siham Sintisi, pour les personnes qui nous écoutent, et aussi brièvement, alors je l'ai dit lors de mon introduction, oui. Mais je pense que vous allez en parler mieux que moi. Bluebirds, c'est quoi sa mission? Elle consiste en quoi, sa mission?
Alors, sa mission, elle est simple, c'est de mettre en lien deux univers, d'un côté les indépendants et de l'autre les clients. Dans les indépendants, c'est des indépendants qu'on appelle nous à forte valeur ajoutée ou des indépendants premium, qui ont deux typologies de profils, c'est soit des anciens consultants comme moi, qui sont issus des cabinets de conseil en stratégie, en organisation, en management, peu importe, ou des opérationnels qui ont, eux, pour le coup, une expérience, une expertise fonctionnelle ou sectorielle à faire valoir, qui ont évolué pendant plus de 10 ans en entreprise sur, par exemple, une fonction RH, financière, direction générale, direction industrielle, peu importe, et qui vont se mettre sur le marché de l'indépendant pour proposer leurs services et leur expertise fonctionnelle et ou sectorielle. D'accord. Donc d'un côté, j'ai ces deux communautés-là, et de l'autre, j'ai mes clients qui vont être des grands comptes, des PME, des ETI, des entreprises à taille intermédiaire, des industriels, des cabinets aussi parfois de conseil qui font appel à nos services pour renforcer leurs équipes et qui vont avoir une problématique donnée, soit un enjeu d'ordre stratégique, organisationnel, de transformation, ou même une question, ce qu'on appelle nous, de management de transition, où ils vont être dans une phase de transformation majeur, par exemple un site industriel qui est en crise, il souhaite le redresser, ben, ils ont envie d'avoir un opérationnel qui est en capacité d'intervenir en mode plug and play et redresser la situation. Ça peut être dans des contextes de fusion, session, où on a une transformation transitoire justement à gérer et on a besoin d'avoir, on n'a pas besoin de recruter quelqu'un de manière permanente, mais on a besoin d'avoir encore une fois un opérationnel qui va savoir gérer cette transition-là, ou ce que moi j'appelle parfois du management de confort, de transition de confort, où là on a un poste vacant, un DAF qui est parti en arrêt maladie ou une DRH en congé maternité, et derrière on n'a pas envie de laisser le poste vacant, on n'a pas non plus envie que l'intérim soit reprise en interne, et donc on a envie de se faire accompagner par un opérationnel qui est en capacité, encore une fois, en mode plug and play, démarrer et être opérationnel dès le premier jour. Excellent. Donc c'est ça nos services chez Bluebird, c'est pouvoir épouser les besoins des entreprises et en face leur trouver les expertises ultra ciblées et mobilisables immédiatement par rapport à leurs besoins.
Excellent. En tout cas, c'est très bien expliqué et très bien détaillé, Siham Sintisi. Dans la continuité, toujours, vous animez un podcast, Histoire d'entreprise Maroc. D'où vous vient cette envie de lancer un podcast et pourquoi avoir choisi justement les entreprises, l'univers des entreprises?
Alors, en fait, l'idée du podcast, le pourquoi Histoire d'entreprise, c'est parce que pour moi, on ne raconte pas assez l'histoire des entreprises marocaines. Et les histoires incroyables marocaines, il y en a, et pas qu'un peu. On parle souvent des success stories étrangères, alors que notre tissu économique, il est, enfin, il regorge de trajectoires inspirantes d'entreprises. Enfin, c'est pour moi le marché économique marocain est fait d'entrepreneurs, pour le coup, avec beaucoup d'histoires familiales et de parcours atypiques et des transformations qui sont juste hallucinante et qui devrait être racontée. Donc c'est ouais. ça qui m'a motivée en premier lieu pour lancer ce podcast-là. Étant l'entreprise Maroc, c'est vraiment pour raconter ces histoires inspirantes. Et pourquoi les entreprises? Puisqu'aujourd'hui, il y a deux sujets qui me passionnent. Mm-hmm. C'est, le premier, l'empowerment féminin. Mm-hmm. Et le deuxième, c'est en lien avec mon activité au sein de Boubard, qui est celle de la transformation du monde du travail. Mm-hmm. Et pour moi, c'était assez naturel de donner un écho justement aux entreprises pour parler aussi de ces mutations-là.
Excellent, excellent. Bah, je vous rejoins parfaitement sur ce point, Siham Sentissi. C'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment des histoires derrière les entreprises, les success stories. On en a au Maroc aussi. Oui. Et c'est bien et c'est tout à votre honneur de vouloir justement mettre la lumière sur tout ça. Pour la suite, Siham, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce que vous avez un rêve, un objectif, le next step pro pour vous, ça serait quoi?
Le next step pro, ce serait structurer encore plus le marché du freelancing premium avec Boubird, accompagner les entreprises à intégrer ces modèles de plus en plus et pousser le podcast vers des invités qui sont encore plus premium que sont aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le monde du travail il évolue et j'ai la chance d'être vraiment une actrice de cette transformation et être en plein dedans. Et ce que vous pouvez me souhaiter, c'est d'en profiter pour l'accompagner de la meilleure façon possible.
Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Siham. Le mot de la fin cette fois, si vous devez partager un seul conseil avec les personnes qui nous écoutent actuellement, peut-être les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont un petit peu peur, qui sont réticents, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire si vous deviez partager un tips ou un conseil avec eux?
Un tips, c'est être conscient de quelles sont ses forces et ses faiblesses avant de se lancer. Parce que il y en a beaucoup du fait d'une promotion à un certain moment de l'entrepreneuriat, de l'effort du digital, qui se sont dit entreprendre c'est facile, c'est faire de l'argent c'est facile. Ils se lancent et ils se disent on va y arriver sans qu'ils aient nécessairement soit le bon background, soit réfléchi vraiment sur tout leur écosystème, soit se dire qu'est-ce qui va être notre point de différenciation, comment on va réussir. Sans en tout cas dessiner un pré-chemin, pas nécessairement dessiner toute la trajectoire, parce que l'entrepreneuriat, dans tous les cas, c'est...
Bien sûr, c'est des montagnes russes. On ne peut pas savoir avec précision.
On ne peut pas savoir, mais en plus, on est dans un modèle d'expérimentation. Il faut tester et voir derrière ce que ça en ressort. Mais malgré tout, avant de se lancer, il faut se dire ok, en fait, voilà quelles sont mes forces, voilà quelles sont mes faiblesses, voilà ce qui me drive, et être conscient vraiment de ces faiblesses et savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter et savoir se faire accompagner quand il faut se faire accompagner. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va pas vouloir tout faire tout seul. C'est quelqu'un qui va savoir se dire ok, en fait, là, je suis nulle, c'est pas mon domaine, mon champ d'expertise. Je vais demander conseil, je vais me faire accompagner. Et parfois aussi, il faut savoir ne pas s'acharner. Il faut savoir s'arrêter et se dire, ok, en fait, là, je vais droit dans le mur et j'emmène tout le monde en plus avec moi. Parce qu'on est des individus au sein d'une famille et d'un environnement. Et il faut savoir s'acharner quand il faut et s'arrêter quand il faut. Donc, je vais dire, pour moi, le premier tip, c'est être conscient de soi, de ses forces et de ses faiblesses et de ses atouts.
C'est sur ce très beau conseil, Siham Sentissi, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire et votre parcours avec moi aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Avec plaisir, à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.